Ah, vous savez que la prédication se fera ce matin dans l'épître aux Galates, Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, on va juste lire les 10 premiers versets de ce chapitre. Et on reviendra pour parler des deux versets dans ces 10 sur lesquels on va s'attarder, parce qu'on ne peut pas voir les 10 versets. Un verset à la fois, ça prendrait beaucoup trop de temps. Il y a beaucoup trop de choses qui nous sont enseignées dans ces dix versets. Galates chapitre 6, on a trouvé sa place à partir du verset premier. Dit frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Comme j'ai dit, tellement de choses dans ces quelques versets. Il y a des versets que j'aime beaucoup, le dernier qu'on a lu, le verset 10. Le verset juste avant est un verset auquel je fais référence de temps en temps parce que ça me fait moi-même beaucoup de bien, le fait de ne pas nous lasser de faire le bien. Mais le Seigneur m'a mis à cœur les versets 2 et 5 pour ce matin. Il dit, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Avec le verset 5, car chacun portera sa propre charge. Alors, en lisant ces deux versets, le monde dirait, mais ces deux, voilà. Voilà une preuve que la Bible se contredit. L'un verset, il dit portez les fardeaux les uns des autres. Et puis là, verset 5, il dit ben, il faut que chacun porte sa propre charge. Ben, c'est lequel? La Bible se contredit. Mais comme on va le voir, il n'y a absolument aucune contradiction ici. Et avoir des fardeaux et porter son fardeau est quelque chose que même l'inconverti peut comprendre. On a l'expression, on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? On sait qu'il y a des difficultés, on sait qu'il y a des problèmes, on sait, chacun a des fardeaux à porter, et on n'a pas tous les mêmes fardeaux non plus. Cela dit, nous portons souvent des fardeaux inutiles, qu'on n'a pas besoin et qu'on n'est même pas obligé de porter. Et nous refusons en retour de porter des fardeaux que nous devrions. Les fardeaux inutiles, hein, par exemple, ce serait l'inquiétude, ce serait de mettre en doute les promesses de Dieu, ou encore de se sentir encore coupable pour des péchés que nous avons pourtant déjà confessés. Il y en a qui portent ces fardeaux sur eux alors que c'est complètement inutile, qu'ils ne devraient pas. Les chrétiens de Galate, si vous lisez cet épître en entier, vous remarquerez qu'eux aussi, justement, portaient des fardeaux inutiles. Ils se chargeaient du fardeau de la loi. Hein, de la loi, c'était les enseignements de l'Ancien Testament, c'était tout ce que le peuple d'Israël devait faire avant la venue du Christ, avant la mort et la résurrection de Christ, avant le salut par la foi. Ils se chargeaient, alors qu'ils étaient chrétiens, ils sont sauvés, mais ils se chargeaient par-dessus leur salut, encore du fardeau de la loi elle-même. Et l'apôtre Paul, à travers cette épître, il lui dit, ben, si vous allez vous charger d'un fardeau, ben alors portez les fardeaux des uns des autres. Si vous voulez obéir à une loi, alors obéissez la loi de Christ. Il dit, portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est bien plus important que la charge que vous vous mettez vous-même, que vous vous imposez, qui est complètement maintenant, aujourd'hui, inutile. J'aimerais qu'on regarde ensemble donc à deux choses très simples par rapport à cette vérité. La première, qu'on divisera elle-même en deux, c'est de donner tout simplement une définition biblique de qu'est-ce que ça veut dire de porter les fardeaux des uns des autres. Pour ensuite voir en deuxième lieu quels sont les résultats qui nous sont réservés quand nous choisissons d'obéir à ce commandement. Alors, premièrement, une définition biblique. Qu'est-ce que ça veut dire que de porter le fardeau les uns des autres. Parfois, pour bien comprendre un mot, on regarde un peu à son antonyme, à le sens contraire. Alors, regardons l'opposé. Qu'est-ce que ce commandement veut dire du point de vue négatif? Qu'est-ce que, si vous préférez, qu'est-ce que ça ne veut pas dire? La première chose que le fait de porter les fardeaux des uns des autres ne veut pas dire, c'est que il ne dit pas qu'on doit se décharger de tous nos fardeaux sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, voici ma charge, tiens, prends-le pour moi. De porter les fardeaux des uns des autres ne veut pas dire cela. En Romains chapitre 15, versets 1 et 2, il nous dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Il dit, nous qui sommes forts spirituellement, nous devons, pas que nous pouvons, mais que nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas. Pas de, et on va le voir, de critiquer, etc. On est plus fort et donc on peut porter notre charge et aider à porter la leur. Donc que la première application de ce passage soit donc pas que, comme beaucoup, ils disent, ah, là, il dit ici de porter les fardeaux des uns des autres, alors je vais regarder autour de moi pour voir qui est-ce qui peut m'aider à porter ma charge. Non, c'est justement, ça devrait être le contraire. On doit porter les fardeaux les uns les autres. Donc ma première réaction, c'est, il faut que je regarde autour de moi pour voir qui je peux aider pour porter sa charge. Et en aidant cette personne à porter sa charge, cette personne va également m'aider moi à porter ma charge. C'est quelque chose qui se fait ensemble. Le but pour tout chrétien, c'est ne pas tout laisser entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est de tout laisser entre les mains de Christ, entre les mains de Dieu. Donc ce n'est pas juste pour nous d'essayer de trouver quelqu'un pour dire, ah, même notre pasteur, je viens pour tout laisser et décharger mes soucis, mes besoins. Je viens vers toi pour que tu m'aides à porter mes fardeaux en laissant mes fardeaux entre tes mains. Non, on doit les laisser entre les mains de Dieu, entre les mains de Christ. Mais on peut regarder autour de nous pour voir qui est-ce qui est en train de lutter, qui est-ce qui est en train de, pour utiliser l'image, en train de s'écrouler sous le poids des responsabilités de ces fardeaux. Pour que je puisse, non, comme il dit, le critiquer et l'enfoncer plus, mais pour l'aider, pour l'encourager. Un frère ou une sœur en Christ peut et doit nous aider à porter notre fardeau, tout comme nous devons aider ce même frère ou sœur en Christ à porter la leur. Ce n'est pas, tiens, voilà mon fardeau, porte-le pour moi, et puis je te verrai de l'autre côté. Moi, je vais me reposer entre-temps. Au contraire, c'est voilà mon fardeau, portons-le ensemble et passe-moi le tien et je vais le porter avec toi aussi en même temps. Donc, le porter des fardeaux les uns les autres ne veut pas dire tout laisser à quelqu'un d'autre. On comprend bien. De porter les fardeaux les uns les autres ne veut également pas dire de critiquer les plus faibles. Notre passage en Galates, tout de suite après qu'il ait dit portez les fardeaux les uns les autres, au verset 2, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ, les versets 3 et 4 nous disent. Si quelqu'un pense être quelque chose, et comme si c'était besoin d'être expliqué encore davantage, il rajoute, quoi qu'il ne soit rien, peu importe ce qu'il pense de lui, de lui-même, tu n'es pas aussi bien que tu penses être. Tu n'es pas aussi fort que tu penses l'être. Tu n'es pas aussi meilleur que tu penses l'être. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même, il se trompe lui-même, c'est ce que ce mot veut dire. Alors il dit que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Donc, non par rapport à autrui, c'est-à-dire il a sujet à se glorifier par rapport à ce que Dieu a fait pour lui sans avoir besoin de se comparer à quelqu'un d'autre. Parce que dès qu'on se compare à quelqu'un d'autre, automatiquement on va toujours se comparer à quelqu'un de qu'on considère plus faible. Si on va se comparer à quelqu'un d'autre, d'autres passages nous disent, ben, dans ce cas-là, autant de comparer à l'exemple qu'on doit suivre, celle de Christ. Et là, quand on se compare à lui, ben on tombe bien bas. Mais on ne va pas faire ça. Quand on aime se comparer, on va se comparer à ceux qui sont moins bien, pour se sentir mieux, se valoriser. Il dit, non, on n'a pas à faire cela. Examinez-vous selon vos propres œuvres, et alors il aura sujet à se glorifier par rapport à lui seul, et non par rapport à autrui, non par rapport à se comparer à d'autres, car chacun portera sa propre charge. Pour le chrétien qui aime le Seigneur, la moindre faute devient un fardeau. C'est Le chrétien qui aime vraiment, pas qui dit qu'il aime, mais qui, dans son cœur, il aime vraiment le Seigneur, ce n'est pas juste le péché chez les autres qui le gêne, mais c'est surtout les péchés dans sa propre vie qui va le gêner. C'est les péchés qu'il voit en lui, surtout ceux qui reviennent, qui ressurgissent et qui reviennent continuellement. Et le plus qu'ils reviennent, le plus que ça va l'embêter, le gêner. Il dit, mais pourquoi est-ce que je tombe si souvent dans ce même travers, que je chute si souvent dans ce même péché? Ça va le gêner et ça va devenir un fardeau. D'ailleurs, l'un des plus grands fardeaux serait celui du fait qu'il n'est pas parfait. Il le réalisera, il dit, comme Paul le dit en Romains, il dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, je le fais malgré tout. Parce que ma chair est là, et elle est plus forte que je n'aimerais l'admettre. Le chrétien qui aime vraiment le Seigneur veut être parfait, mais il sait qu'il ne l'est pas. Il veut être cet outil entre les mains de son Dieu, mais il sait qu'il est un outil imparfait. Voilà un fardeau qui va peser sur beaucoup de bons chrétiens. L'un de mes plus grandes joies personnelles, c'est quand je pense au moment où j'aurai enfin mon corps glorifié, quand Christ reviendra et qu'on sera auprès de lui, c'est justement cet aspect-là. C'est justement cette joie de savoir que je ne vais enfin plus jamais lutter contre moi, contre ma chair, que je n'aurai plus ces faiblesses qui vont ressurgir encore et encore, mais que j'aurai enfin ce corps glorifié et qu'il ne me sera même plus possible maintenant, à partir de ce moment-là, de pouvoir faire ce qui est mal. Quel soulagement! Mais je sais que ce soulagement ne sera jamais là, juste avant le retour de Christ. Et juste en attendant son retour, ce fardeau sera là. Notre devoir ne consiste pas à chercher les chrétiens les plus faibles pour les accabler davantage, de dire lui c'est un chrétien, mais, et ensuite montrer les fautes parce que nous avons très souvent les mêmes fautes en nous. Porter les fardeaux les uns les autres, pas critiquer les uns les autres, pas trouver les fautes chez les uns et les autres, pas regarder avec un sentiment de supériorité ceux qui ont besoin qu'on les aide à porter leur fardeau, mais chercher ceux qui sont autour de vous pour les aider, les encourager, les édifier. En toute honnêteté, je ne connais personne qui puisse dire qu'il puisse vivre sa vie chrétienne de bout en bout sans qu'il ait besoin à un certain moment à son aide à porter ses fardeaux. Alors si je sais que j'ai ce besoin de temps en temps, même si aujourd'hui même, je n'ai pas ce besoin, mais peut-être que justement, aujourd'hui même, je n'ai pas ce besoin parce que je suis là pour aider quelqu'un d'autre qui a ce besoin. Et demain, peut-être que je serai cette personne qui a besoin qu'on aide. On a tous besoin à ce que quelqu'un vienne nous aider à porter nos fardeaux. Souvent, parfois, je devrais peut-être pas dire souvent, mais c'est notre compagnon de vie. Pour moi, ça peut être ma femme qui m'aide à porter mes fardeaux, tout comme en étant son mari, j'aide à porter ses fardeaux à elle. Et non dire, mais pourquoi est-ce que tu as autant de mal avec ça? Ou qu'elle me dise, pourquoi est-ce que ça te gêne autant? Mais de nous édifier, de nous encourager mutuellement. Parfois, c'est quelqu'un d'autre dans la famille, ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un oncle. Ou parfois, c'est tout simplement un ami, un bon ami proche avec qui on a grandi ou qu'on a appris à connaître à travers les années, un ami proche dans lequel on puisse se confier et à savoir qu'on va être soutenu, qui va nous aider à porter notre fardeau. Parfois, ça peut être une main de personne. Mais si ce n'est personne d'autre, comment pourrions-nous continuer sans que Christ lui-même nous aide à porter nos fardeaux? Personne ne peut vivre sa vie chrétienne de par ses propres forces. Jamais. Alors, qui sommes-nous pour juger quelqu'un d'autre qui a les mêmes besoins que nous, en fait? Rappelez-vous du passage que j'ai lu en Romains 15, 1 et 2. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Mais il dit, nous qui sommes forts, mais est-ce que nous avons toujours été forts? Ben non. Est-ce que depuis le moment de mon salut, je suis sauvé, puis hop, automatiquement, je suis fort? Et je l'ai resté depuis le moment de salut, j'ai jamais été autre chose que fort? Absolument pas. Personne n'a été comme ça. Au contraire, la Bible nous dit, au moment de notre salut, on est des bébés en Christ. Il a fallu qu'on ait d'abord le lait de la parole, qu'on nous enseigne, qu'on soit instruit, qu'on grandisse, qu'on mûrisse, et ensuite qu'on devienne fort dans la foi, dans notre vie spirituelle. On n'a pas toujours été fort. Alors n'avons-nous pas, nous aussi, à certains moments, été faibles et avions donc eu besoin de quelqu'un de fort pour nous aider? Alors ne regardons pas les chrétiens que nous aidons à porter leur fardeau comme faibles. Parce qu'avec l'aide de Dieu, comme Dieu l'a fait avec nous, ils ne vont pas rester faibles, eux non plus. Ils vont grandir, eux aussi. Ils vont devenir plus forts, eux aussi, au lieu de s'écrouler sous le poids de leur fardeau. D'ailleurs, ce passage en Romains, il termine bien en disant que chacun de vous complaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. C'est tout la définition de ce terme, édification. C'est de construire, de pouvoir édifier, non écrouler, non peser, mais nous aidons dans le but d'aider et non de les faire sentir comme des coupables, des incapables. Mais nous ne nous attardons pas encore sur ce que ce texte ne veut pas dire. Regardons en même temps qu'est-ce que ça veut dire quand on comprend qu'on est là pour aider et édifier ce frère ou sœur en Christ à porter les fardeaux et non juger ces personnes. Ben, ça veut dire que nous devons avoir beaucoup de compassion, surtout pour ceux qui ont des fardeaux causés par leurs propres péchés. Si vous voyez notre passage en Galates, vous avez remarqué ce verset premier, des frères, si un homme vient à être surpris en faute, donc il a tort, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû, c'est une faute, c'est pas juste une faiblesse, il a tort. Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Et ensuite, tout de suite après cela, il dit, portez les fardeaux les uns les autres. Romains chapitre 14, verset 1 nous dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Faible dans la foi. Donc il devrait être plus fort dans sa foi, dans sa croyance, dans sa vie spirituelle. Faites accueil à ce qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Je pense notamment aux chrétiens qui étaient fidèles à Dieu et qui étaient fidèles donc à l'Église pendant un moment, mais qui ne le sont peut-être plus aujourd'hui. Il serait facile, comme faire beaucoup de chrétiens, de dire, oh, quelle tristesse que tel ou tel, il n'est pas comme il devrait être, il n'est pas où il devrait être, il n'est pas aussi fidèle comme il l'était. Et tout est négatif. Au lieu de, oui, c'est triste, mais que pouvons-nous faire pour l'aider à revenir? Que pouvons-nous faire pour aller vers lui, pour l'aider à supporter son fardeau, pour l'aider à l'édifier et l'encourager, et non l'enfoncer plus? Il nous est toujours facile de critiquer. C'est quelque chose qui vient naturellement. Parfois, j'ai envie de dire un peu plus naturellement pour les Français. Mais je me rappelle que dans l'éducation nationale, à notre époque, en tout cas, je ne sais pas comment les choses ont changé aujourd'hui, mais la façon habituelle d'enseigner du prof, c'était de ridiculiser l'enfant. Oh, en tout cas, envers moi, c'est ce qu'on m'a souvent fait. Et que j'ai vu faire dans. Pas juste envers moi, mais le prof dans notre classe. Et au point de dire ou d'utiliser des grossièretés. Il dit, mais est-ce que tu es stupide ou est-ce que tu es pip? Et il voulait une réponse. Et il pensait que le plus que je réutilise, ben, le plus qu'il voudra apprendre. Bon, bref, s'il veut. Mais pour nous chrétiens, c'est même dans notre chair, il nous est toujours plus facile de critiquer. Il est toujours plus facile de voir la faute chez les autres, le problème chez l'autre, que de voir qu'est-ce que Dieu pourrait et voudrait faire chez l'autre, malgré ses faiblesses, malgré ses manquements. C'est le contexte de tout ce passage Galates chapitre 6 et autour de si un frère vient être surpris en faute. Redressez-le avec un esprit de douceur, d'avoir cette compassion, d'avoir cette volonté de ne pas juste corriger, d'avoir cette volonté de vouloir l'édifier, l'aider à grandir. Le but de porter les fardeaux les uns les autres, c'est dans ce but-là. C'est dans le but d'encourager, de fortifier, d'aider une personne à ne pas succomber au poids du fardeau. Pouvez-vous imaginer une église, peu importe son nombre, que ce soit une plus petite église comme la nôtre ou d'autres comme il y a à travers la France qui sont une cinquantaine, j'en connais deux ou trois qui sont un peu plus d'une centaine. Mais pouvez-vous imaginer ces mêmes églises où absolument chaque chrétien, sans exception, s'entraider à se porter les fardeaux les uns les autres, au lieu de critiquer les uns les autres, au lieu de montrer les erreurs des uns des autres, au lieu de dire celui-ci, cela, ou j'arrive pas à croire que celui-là, il a porté cela aujourd'hui, ou j'arrive pas à croire que ceci, mais de porter, pas pointer du doigt ce que l'autre a fait, mais de tendre sa main pour aider cette personne à se soulever de son fardeau et porter sa charge. Non seulement ce que ça veut dire qu'on doit avoir beaucoup de compassion, mais automatiquement ça veut dire qu'on doit avoir également beaucoup de patience. Pour ceux qui sont, entre guillemets, plus faibles. 1 Thessaloniciens 5,14 nous dit « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Donc, c'est toujours dans ce contexte, envers un frère, envers un autre frère, qui a fait du tort, qui est dans le péché. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Tous. Ah, mais là, il dit seulement d'être supporter les faibles, là, il dit seulement de consoler ceux qui sont abattus. Oui, mais la patience, elle est envers tous. On voit notre frère ou sœur qui est en train de s'écrouler, qui a du mal dans sa vie chrétienne, qui peine, qui souffre, qui est accablé par les différents fardeaux, même peut-être de ses propres péchés, c'est de sa propre faute, avec la compassion qu'on doit montrer, de redresser avec douceur, on doit avoir beaucoup de patience, de la patience envers tous. Ne sommes-nous pas, nous, heureux quand d'autres se montrent patients envers nous, quand nous avons mal, quand nous faisons mal, quand nous ne sommes pas rapides à faire ce qui est juste, ne sommes-nous pas heureux, nous, que les autres nous montrent de la patience? Alors pourquoi est-ce que nous refusons d'être aussi patients envers eux? Ah, c'est pourquoi refusons-nous de porter les fardeaux? Parfois, ce n'est pas le fardeau en lui-même qui nous rejette, c'est la personne. Oh, mais je veux bien aider mon frère ou sœur en Christ, mais tu sais, celui-là ou celle-là, j'aime pas son caractère. Et c'est quelqu'un d'autre l'aidera à porter son fardeau parce que j'arrive. Sa tête, elle me revient pas. On a mille une raisons. Des fois, j'ai entendu, il dit, j'aimerais bien aider, je vois que cette personne, elle peine, mais elle est toujours négative, toujours dépressive, et j'ai peur que si je vais l'aider à porter ce fardeau, que je vais devenir comme elle, je vais être négatif moi aussi, je laisse tomber. Et alors, regardez le texte, il dit bien que nous accomplirons ainsi la loi de Christ quand nous portons les fardeaux les uns les autres. Mais parce que cela en lui-même il devrait être plus que important que le mauvais caractère de la personne que nous devons aider. Ce texte n'implique-t-il pas que nous devons aussi avoir beaucoup de sympathie pour notre frère ou sœur en Christ? Combien il nous est tellement plus facile de montrer de la patience quand on sympathise avec la personne, quand on se met à sa place. Ou, mieux encore, quand on a assez d'humilité pour reconnaître que nous étions nous aussi à un moment donné à sa place déjà. Ou, si on n'a pas été, que si ce n'est pas par la grâce de Dieu, que nous pourrions être à sa place. Et que là, on aimerait que quelqu'un d'autre se montre compatissant et patient envers nous. Alors pourquoi est-ce que nous ne pourrons pas l'être pour cette personne-là? Quand on se met à sa place, quand on reconnaît que nous avons ou faisons face aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés, n'endurcissons pas notre cœur. Si nous voulons accomplir la loi de Christ, n'est-il pas logique que nous devons avoir le cœur de Christ? Un cœur qui est ému de compassion, un cœur qui ne manque pas de patience, mais qui s'élargit pour l'autre, au lieu de s'endurcir dans l'incompréhension et le jugement. Quand vous voyez un frère ou une sœur qui peine sous le poids de son ou de ses fardeaux, n'allez pas en courant dans le sens inverse. « Oh, voilà tel ou un tel qui arrive, moi je m'en vais. » Je sais automatiquement que ça va être tristesse et misère. J'ai, je sais pas si vous connaissez ça, c'est une autre époque, hein, mais le dessin animé de Calimero, c'était, on disait, ne soyez pas un Calimero. Oh, c'est vraiment trop injuste. C'était sa phrase favorite, si je me rappelle bien. C'est, mais on dit, oh, mais voilà tel ou tel, il faut que je m'en aille parce que je sais que Calimero arrive. Mais au contraire, si vous savez justement que cette personne peine, que cette personne a des difficultés, que ses fardeaux sont lourds, et on doit aller vers cette personne. Elle-même n'ira peut-être pas vers nous, mais on doit aller vers pour l'aider à porter ses fardeaux. Quand vous priez, ne vous arrêtez pas avec vos propres besoins. Continuez à rester en prière et faites mention de cette personne et de ses besoins. En faisant cela, vous aidez ces personnes à porter leur fardeau. Ce n'est pas la seule façon, mais c'est certainement l'un des endroits où nous pouvons faire le plus grand bien pour notre frère ou sœur en Christ, en priant pour elle, et encore mieux si on peut prier avec elle pour ses besoins. Vous en faites votre intérêt, votre pétition au Seigneur. Pourquoi prier sinon les uns pour les autres? Je suis convaincu qu'on ne sera qu'une fois qu'arrivé au ciel, que chacun d'entre nous, on ne réalisera pas avant ce moment-là à quel point la prière était importante pendant notre vie chrétienne. Et à quel point Dieu pouvait faire tellement plus à travers la prière qu'on ne lui avait permis de faire, parce qu'on n'a pas prié assez, ou pas prié comme on aurait dû. Quelle meilleure manière de porter les fardeaux les uns les autres que de prier les uns les autres, les uns pour les autres. Mais rappelons-nous que si je vais prier, il faut au moins deux choses qui soient importantes. Si je vais prier pour vous, si je vais prier pour quelqu'un d'autre, il faut déjà que moi-même je sois en règle avec Dieu. À quoi bon prier envers Dieu si je sais que j'ai des péchés dans ma vie qui bloquent ma relation, ma communion avec lui? Il me dit, je t'entends, mais je ne peux rien faire tant que tu n'es pas en règle avec moi. Si je vais prier pour aider mes frères et sœurs à porter leur fardeau, il faut que je sois en règle. Donc c'est une motivation en plus. D'ailleurs, si je suis supposé être plus fort spirituellement, dans un meilleur endroit dans ma vie spirituelle, ça ne devrait pas être un problème de pouvoir être en règle avec Dieu. Puis la deuxième chose, il faut que je sois aussi que je n'ai rien contre cette personne. Je ne vais pas pouvoir prier pour qui que ce soit avec si je garde rancune contre cette personne pour quoi que ce soit. Seigneur, aide pour telle personne, tu sais à quel point elle m'énerve. Vous dire, Seigneur, tu sais que j'ai des difficultés avec cette personne, mais je sais qu'elle passe par des moments difficiles. Aide-moi à l'aimer comme tu l'aimes. Aide-moi à l'aimer comme tu m'aimes moi. Je sais que je ne suis rien d'aimable devant toi non plus, mais tu m'aimes quand même. Si nous avons quelque chose contre la personne, on aura du mal à prier pour cette personne. Ce qui nous amène au dernier point qui sera, je vous rassure, beaucoup plus rapide. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Quelles sont les récompenses, pour ainsi dire, si nous mettons en pratique ce verset de porter les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ? Ben, ça va produire l'unité. Parce que là, on en revient à ce verset 5 qui dit, car chacun portera sa propre charge. Et là, on va voir de quelle manière est-ce qu'il n'y a absolument aucune contradiction. Je l'ai fait allusion sans mettre le doigt dessus, mais peut-être que vous l'aurez remarqué. Quand on aide à porter les fardeaux les uns les autres, c'est pas qu'on ne se décharge pas entièrement notre charge sur l'autre personne. Chacun doit continuer à porter sa charge. Si vous préférez, chacun est responsable pour ses responsabilités. Seulement à Christ, est-ce que nous pouvons venir avec confiance, avec nos soucis, nos fardeaux, et tout remettre entre ses mains. Mais jamais il est dit de nous décharger, je ne dois pas me décharger de mes responsabilités sur l'autre. L'autre doit m'aider à ne pas succomber au poids du fardeau. Ce n'est pas la même chose. On doit tous rendre compte pour ce que nous avons fait quand nous sommes ici-bas sur terre. Par exemple, un exemple bête. Je suis moi-même en ce moment responsable du fait que je dois prêcher la parole de Dieu d'une manière fidèle et précise. C'est ma responsabilité. Vous pouvez m'aider à porter cette charge pendant la semaine en priant pour moi, etc. Mais c'est ma responsabilité. Ce n'est pas à vous de venir et prêcher la parole de Dieu, c'est la mienne. C'est ma responsabilité d'être fidèle. Tout comme je ne suis pas moi responsable de la manière que vous recevez cette prédication et de ce que vous en faites. Ça, c'est votre responsabilité. Je peux vous aider en portant votre charge, en étant fidèle à la mienne et en priant pour vous. Mais la responsabilité est vôtre. Chacun portera sa propre charge. C'est ça qu'il dit. Que ceci nous aide à nous rappeler que nous avons tous une charge. Nous portons tous une charge, sans exception. Nous pouvons connaître des chrétiens qui sont toujours souriants, qui sont toujours joyeux, qui sont toujours positifs, mais ça ne change rien qu'ils portent leur charge. Certains arrivent à le cacher mieux que d'autres, mais ils portent leur charge quand même. On ne sait jamais ce que la personne en face de nous est en train de vivre ou ce que la personne en face de nous est en train de subir. Mais nous savons qu'il ou elle a une charge qui pèse sur elle. Nous pouvons l'aider. Pas seulement malgré notre propre charge, mais au contraire, on réalisera qu'en aidant cette personne avec sa charge, que la nôtre sera un peu moins lourde à porter, parce que maintenant, cette autre personne nous aide avec la nôtre, si ce n'est rien d'autre, parce que maintenant, nous sommes en train de prier l'un pour l'autre. Une église où chaque membre cherche à aider, où chaque membre cherche à encourager, où chaque membre cherche à porter les fardeaux les uns les autres, au lieu de critiquer ou juger les uns les autres, sera une église qui sera unie dans un même esprit. Alors, pour conclure, il dit, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Examine, ça veut dire de ne pas juste lancer un petit coup d'œil, prendre le temps d'étudier en profondeur. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Je remercie le Seigneur de ce que je ne dois pas porter mes fardeaux tout seul. Non seulement est-ce que je peux les remettre aux pieds de Christ, mais en plus je peux compter sur l'aide de mes frères et sœurs en Christ, sans pour autant oublier mes propres responsabilités. Laissez-moi également vous partager un passage en Philippiens, et on terminera dans un dernier passage ici en Galates. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 5 nous dit, bon, et à chaque fois dans ce premier verset, il utilise le mot si, il dit s'il y a, dans la manière que c'est écrit dans l'original, dans le grec, c'est une affirmation qu'il donne. C'est comme s'il dit, s'il y a quelque consolation en Christ, et il y en a. C'est le sous-entendu dans la manière que c'est écrit dans l'original. Donc, Philippiens 2.1 dit, s'il y a quelque consolation en Christ, et nous savons qu'il y en a, s'il y a quelque soulagement dans la charité, nous savons qu'il y a, s'il y a quelque union d'esprit, ou s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Il dit, parce que nous savons que toutes ces choses sont présentes et existent. Le verset 2, alors le résultat, c'est rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ne voyez-vous pas le rapport qu'on peut faire avec ce passage de Galates 6, 2? Portez les fardeaux les uns les autres. Pouvez-vous imaginer l'unité qui se trouverait dans une église locale où chaque membre mettait en pratique rien que ces quelques passages de Philippiens et de Galates? Si je devais résumer cet ordre par une autre phrase, une autre vérité qui nous est enseignée à travers toutes les Écritures, de porter les fardeaux les uns les autres, si je devais le dire autrement, ce serait tous ces autres passages qui nous disent « Soyez serviteurs les uns des autres. » N'est-ce pas la même chose? N'est-ce pas pareil? Galates chapitre 5, verset 13, le chapitre juste avant notre passage, nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, l'amour, serviteurs les uns des autres. » Ça, c'était le chapitre juste avant. Et ensuite, il parle, s'il y a un frère qui a commis une faute, qui a péché, qui a en tort, ben ne l'enfoncez pas. Faites tout pour montrer de la douceur, de la patience, pour l'édifier, l'encourager, pour le ramener à Christ. Redressez-le avec un esprit de douceur, tout en prenant garde à toi-même. Rappelle-toi que tu n'es rien, que tu n'es pas meilleur, que demain c'est toi qui pourras être dans ce même endroit. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Que le Seigneur soit glorifié dans la façon que nous appliquons sa parole. Prions, s'il vous plaît.